Aujourd'hui, dans Parlons Tiroir, toujours confiné, nous entendrons d'abord Christine Ségrestan de Beaupuis, arboricultrice des vergers de Pierreton à Sainte-Bazeille. Elle nous présente sa production arboricole, puis la cagette de Beaupuis, qui se fait par vente par e-drive, qui a lieu chaque vendredi, ainsi que le marché qui a lieu le premier vendredi du mois. Ce mois dernier, c'était le marché à citrouilles et ce mois-ci, c'est le marché des lutins, un clin d'œil à Noël. Ensuite, on entendra Nathalie Daron de Camblan et Ménac, du château Courdat du Buc, membre du réseau Bienvenue à la ferme de la Gironde. Elle nous présente le marché à la ferme qui se produira le 6 décembre à partir de 10h. Ensuite, nous entendons une conférence au château Guiraud, Sauterne, premier grand cru classé, qui a eu lieu dernièrement, une conférence sur les sols vivants en viticulture avec Marc-André Sélos, professeur à l'Institut national d'histoire naturelle. Également, à l'heure où tout le monde porte un masque jetable qui met 450 ans pour se dégrader, un masque en chambre biodégradable fait par Géochambre Made in France. Enfin, la planète va respirer. Puis enfin, côté jardin, l'histoire du camélia qui commence à fleurir dans nos jardins. Aussi, bonne écoute. Alors, je suis avec Christine Ségrestan, qui est productrice arboricultrice de Beaupuis. Bonjour.
Bonjour Patrick.
D'abord, on va peut-être parler un petit peu de la production. Vous faites quoi au juste?
Alors moi je suis arboricultrice donc sur la commune de Sainte-Bazeille près de Beaupuis et je produis des pommes principalement mais aussi des pêches et nectarines.
Alors les pommes bien sûr, au départ on connaissait que deux trois variétés, quoique des anciennes il y en avait beaucoup, mais enfin notamment malheureusement ce week-end ne va pas avoir lieu les rencontres sur l'arbre à Montesquieu, sur les vieilles variétés de pommes. Et de poire, et pas que ça, puisque c'est le conservatoire d'espèces végétales de Nouvelle-Aquitaine. En pommes, vous avez quand même pas mal de variétés, là.
Oui, j'ai une dizaine de variétés, avec des variétés qui sont au goût du jour, comme Chantecler, qui marche très bien, Gala, Fuji. Mais on a aussi la Reine des Rainettes, qui est une variété ancienne, remise au goût du jour et qui a toujours son succès. La Canada, puis après d'autres variétés moins connues, comme Rubinette, Pâte de Loup, Belle de Boscope aussi, un tout petit peu de Belle de Boscope. Voilà, ça c'est les principales variétés de notre production.
Alors la particularité, c'est qu'on n'est pas un verger en plaine, mais on est un verger en coteau. Et dans les tiroirs, la particularité, c'est que les fruits ont une meilleure qualité gustative, en règle générale, sur le coteau. Il faut monter l'eau sur le coteau et non pas descendre le verger dans la plaine parce qu'il y a l'eau.
Oui, effectivement, dans nos terrains un peu plus forts, on produit des fruits avec une saveur un peu plus marquée que sur le bas du coteau ou sur la plaine de la Garonne. Les terrains sont plus filtrants et donc voilà, c'est un peu comme la vigne. Hein. Les bons vins sont dans les pentes. Bon, mais pour les vergers, c'est la même chose. Donc oui, effectivement, il y a un petit lac près de chez nous qui nous sert à bien irriguer nos vergers. Et sans quoi, bon. Évidemment, la production ne serait pas possible. Et du coup, nous avons une production tout à fait correcte et avec une saveur qui est reconnue.
Alors, vous faites partie des fermes de Garonne.
Oui, c'est ça. Depuis leur création, ça avait déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis, la ferme de Garonne numéro 5 depuis toujours. Et heureuse de faire partie de ce petit groupe qui est dynamique et qui ne manque pas d'idées pour attirer les consommateurs dans nos fermes, mais aussi sur d'autres sites, comme en ce moment la boutique éphémère qui a ouvert en ville à Marmande, rue Charles de Gaulle, pour un mois. Voilà, pour les fêtes, ça fait, là c'est pareil, c'est la quatrième année que fait ça et ça a de plus en plus de succès. On nous attend chaque année au centre-ville à cette période.
Surtout qu'en plus, il y a encore plus de producteurs. D'après le président des fermes de Garonne, je crois que vous êtes 25 producteurs pour étoffer avec des truites qui viennent du Ciron. Enfin, vous avez quand même étoffé, déjà vous étiez nombreux, je crois que vous êtes 17. 17 fermes et vous êtes maintenant, je crois, 25 producteurs qui sont dans cette boutique et qui marchent de mieux en mieux. Par ailleurs, je crois que vous, vous faites non seulement la vente directe, mais également vous faites des marchés.
Oui, je suis toutes les semaines sur le marché de l'Aréole et très, très beau marché du secteur et
c'est un des marchés les plus dynamiques, d'abord de producteurs, hein, c'est pas des revendeurs, parce que souvent, là, c'est vraiment un des marchés de producteurs très dynamiques, et dont les gens viennent de loin pour aller à ce marché.
Oui, tout à fait, on a des habitués qui arrivent de la région bordelaise et qui sont là tout le samedi, heureux de trouver des bons produits, oui, frais, directs du producteur, et un prix tout à fait correct, et ça compte aussi.
Alors par ailleurs, vous êtes conseiller municipal sur Beaupuis et dans les perspectives de la mandature, c'était de mettre en place un marché sur Beaupuis.
Oui, alors moi je suis productrice, enfin agricultrice à Sainte-Bazeille, mais j'habite Beaupuis et effectivement j'ai rejoint la nouvelle équipe municipale. On est en train de mettre en place un petit marché pour le moment mensuel sous la nouvelle halle multi-activité. Ce marché qui aura lieu donc vendredi soir de 17h30 à 19h30. Ça sera cette fois-ci le marché des lutins. Chaque mois, on essaye de trouver un thème attractif. Et donc là, à l'approche de Noël, les lutins préparent les cadeaux. Donc les lutins producteurs seront là pour vous donner des idées pour des cadeaux, mais aussi préparer de bons repas de Noël.
Alors, l'idée a démarré avec, finalement, on était à la période du premier confinement, de la crise sanitaire, où vous avez mis en place une cagette collective.
Oui, on a eu la demande de plusieurs consommateurs, on va dire, confinés, pour mettre en place un drive sur Beaupuis, un drive des producteurs. Et donc, nous avons fait appel à la cagette.net. C'est un site qui était déjà bien organisé sur le secteur Lot-et-Garonne, Gironde. Et donc, il a suffi de créer la cagette de Beaupuis pour mettre en place ce drive. Donc, on persévère depuis le premier confinement à maintenir ce drive qui, bien sûr, a perdu un peu de son attractivité avec la reprise des habitudes, mais il est toujours là et ça marche bien. Voilà, avec une belle gamme de produits aussi, des volailles, du porc, des légumes frais, bio, moins bio, des fruits bien entendu, et
du vin, du vin, du lait.
Du vin, voilà, du lait, produits laitiers, oui, belle gamme, fromage de chèvre également. Très, très, très attractif ce petit catalogue de la cagette de Beaupuis.
Intéressant, c'est que cette cagette, vous la faites chaque vendredi, donc avant le début du week-end, chaque vendredi soir. Et le marché que vous avez mis en place également le vendredi pour avoir finalement un rendez-vous incontournable le vendredi soir, quoi.
Oui, voilà, c'était l'idée de faire un drive en fin de semaine avant le week-end et puis le marché en même temps. Du coup, les producteurs apportent leurs produits pour le drive et font d'une pierre deux coups et participent au petit marché en même temps.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parking, puisqu'on est à côté de la salle omnisport Pascal Laperche, tout de basket. En plus, c'est un lieu de passage, puisqu'on est sur la route qui part sur Duras. Beaucoup de gens rentrent du travail et c'est facile de s'arrêter pour aller au marché.
Oui, tout à fait. Il y a un petit parking où les gens peuvent s'arrêter facilement. Effectivement, à cette heure-ci, fin de semaine, fin de journée, c'est un lieu de passage. Oui, tout à fait.
C'est vendredi, cette fois, c'est le marché des lutins. Je crois que la dernière fois, c'était un marché à citrouille.
C'est ça.
Donc, chaque fois, des noms un peu qui sont évocateurs, quoi.
Voilà un thème adapté à la saison et qui accroche un petit peu pour se différencier des marchés qui sont déjà en place. Voilà. Et puis du coup, il y a de belles affiches colorées et puis ça plaît. Voilà. On a de bons retours par rapport à ça.
Là, c'est un marché de producteurs, hein.
C'est un marché de producteurs. Alors cette fois-ci, puisqu'on est proche des fêtes de Noël et en même temps, il y aura aussi la mise en lumière du jardin public de Beaupuy, les illuminations de Noël. Nous avons invité deux ou trois petits artisans qui vont nous proposer leurs produits. Il y aura un créateur de savon et une dame qui fait de la couture aussi, qui fait des petites pochettes en tissu. Voilà. Bon. Et il y aura aussi également l'association des parents d'élèves qui proposera des pâtisseries.
Pascal Laperche en avait parlé lors d'une émission il y a quelques années, malheureusement il est décédé. Ce jardin est assez une idée originale d'avoir éclairé, et donc là c'est une volonté de la population finalement d'installer et d'éclairer un jardin pour Noël.
Oui, alors il y a une association hein, qui s'occupe des créations qui sont dans le jardin. Et puis, ben, la mise en lumière, c'était une occasion de se retrouver entre Bélopodiens voilà, pour partager un bon moment et puis le début des fêtes. Voilà, bon, cette année, ça se fera en toute intimité. Il n'y aura pas de fête particulière ni de réception, hein, ça sera juste, ben, on allume les lumières et vu le contexte.
C'est la magie de Noël.
C'est ça, c'est la magie de Noël, oui, bien sûr.
Très bien. Eh bien, écoutez, souhaitant qu'un franc succès, ça se prolonge, ça fait boule de neige et finalement, ce marché qui a lieu tous les mois, finalement, c'est ça?
Oui, chaque premier vendredi de chaque mois. Donc le prochain, ça sera le premier vendredi de janvier avec un nouveau thème.
Très bien. Et une cagette qui, elle, est hebdomadaire. Pour aller sur cette cagette, comment il faut faire?
Alors, il faut chercher cagette.net sur Internet, cagette.net, et du coup, le site nous propose plusieurs cagettes dans le secteur, et il faut trouver la cagette de Beaupuy, et puis s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, on a accès au catalogue, et nous, ne pas oublier enfin, si on est intéressé par les produits, mais ça, je n'en doute pas, ne pas oublier de commander avant le mercredi soir, 23 h. Voilà. Et donc, la livraison, c'est le drive le vendredi en fin d'après-midi à partir de 17 h 30 jusqu'à 18 h 30.
Il y a une cagette qui avait lieu sur Marmande, maintenant elle est partie à Clairac, c'était la cagette des fermes de Garonne.
Oui, alors la cagette sur Marmande a eu un peu de mal à démarrer. Et puis, bon, ben, cet été, avec le déconfinement, moins de demandes, moins de paniers à préparer. Et le local dans lequel tout cela se passait ne pouvait pas être disponible à long terme. Donc, cette cagette, elle est partie sur Clairac, en fait, chez un boulanger paysan. Qui vend son pain le jeudi après-midi, tous les jeudis après-midi, et qui en même temps distribue les cagettes. Donc les fermes de Garonne ont toujours leur cagette, mais à retirer chez Pascal Capitan à Clairac.
Bon, finalement, vous avez étendu sur la vallée du Lot, là.
Oui, finalement, c'est un autre secteur. C'est un autre secteur. Voilà. Et dans ce secteur-là, justement, il n'y a pas d'autres cagettes. Donc, c'était l'idée de déplacer un petit peu pour moins se concurrencer sur le Marmandais.
Voilà, bon. Eh bien, écoutez, la cagette de Beaupuy fonctionne depuis le mois de mars, c'est ça?
C'est ça.
Et le marché, lui, il a démarré au début
Alors, le
d'automne.
marché a démarré fin août.
Oui.
Et voilà, chaque mois, on a rendez-vous. Donc maintenant, c'est acté. Ça sera chaque premier vendredi de chaque mois.
Après les confituriades qui malheureusement étaient confinées, quoi. Qui ont eu lieu, mais de manière confinée.
Voilà. Oui, les confituriades ont eu lieu de manière très intime. Il y a eu le concours des confitures qui a été fait, mais pas de public, pas de voilà, seulement le jury et les confituriers qui participaient au concours.
D'ailleurs, finalement, pour la première année, c'est un local qui est champion du monde, d'ailleurs.
Exactement, c'est monsieur, oui, la petite confiote
Oui, Monsieur Beylac, Beylac, ouais.
voilà, qui a remporté ce concours, exactement. Oui.
Très bien. Merci de nous avoir fait partager cette passion des marchés, des producteurs, finalement, de nouvelles ventes, formules de vente, puisque bon, on connaissait très bien les marchés locaux, quotidiens comme à l'Aréole qui marche du feu de Dieu, des cagettes qui sont développées grâce au drive, et puis ce nouveau marché qui a lieu tous les mois, donc à Beaupuy.
C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir mis en avant nos productions, nos producteurs. Et pour nous, c'est une passion, bien évidemment. Mais grâce à tous les passionnés de l'agriculture lot-et-garonnaise, on a pu mettre ça en place.
Voilà, manger local, c'est très simple. Il suffit soit se déplacer sur le marché à Beaupuy, soit commander avant le mercredi sur la cagette.net de Beaupuy. Merci.
Merci Patrick, au revoir.
Au revoir.
J'ai une bande d'amis qui aiment chanter à table. Les dimanches après-midi, juste avant la balade.
Et dans nos verres, il y a du velours, un peu de réconfort. On trinquera à l'amour et à ceux qui sont morts.
J'ai vu des bons vivants marcher dans les campagnes. J'ai vu de braves gens chanter pour leurs compagnes. On se reconnaîtra. La 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 la.
Et fait plier nos corps. Les premiers sont partis, mais dans une autre vie, on chantera encore.
On était bons vivants, cachés dans nos campagnes. On était braves gens, amoureux de nos compagnes.
Et on se retrouvera, la 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 la. La 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 la, entre nous c'est comme ça. La 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 la, la 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 la, on se retrouvera. La 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 la, la 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 la, entre nous c'est comme ça. La 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 la,
Je suis avec Nathalie Daron, qui est au château Courtade du Buc à Camblan-et-Ménac, qui organise un marché à la ferme dimanche 6 décembre, c'est ça ?
C'est bien ça, bonjour.
Vous êtes donc à Camblan, et quelle est la particularité de votre exploitation ? Vous faites quoi au juste ?
Alors, nous sommes une propriété viticole familiale. Nous faisons donc des vins en AOC Côte de Bordeaux, Cadillac Côte de Bordeaux. Et nous faisons également des produits dérivés, confiture de raisin, confit de vin, sel aromatisé au vin. Voilà, du vin rouge et du vin rosé.
Et alors là, vous faites partie du réseau Bienvenue à la ferme.
Oui, nous faisons partie de ce réseau depuis plus de 15 ans. Donc c'est un réseau qui regroupe des producteurs pour pouvoir du coup mettre en contact les consommateurs directement avec les producteurs.
Tout à fait. Donc c'est une longue histoire, le réseau Bienvenue à la ferme de la Chambre d'agriculture. Et c'est une formule où à l'intérieur donc de ce réseau, il organisait des marchés à la ferme. Alors là, vous organisez un marché à la ferme, on est au proche de Noël, aux portes de Noël, et donc un marché à la ferme qui va avoir lieu chez vous dimanche prochain, c'est ça ?
Voilà, depuis également une bonne quinzaine d'années, tous les premiers dimanches de décembre, nous faisons le marché fermier sur la propriété, avec vente et dégustation de nos produits, mais aussi dégustation des produits de producteurs, et nous faisons habituellement un repas sur place. Donc cette année, la formule sera un petit peu différente, puisque les gens pourront quand même venir faire leurs petites emplettes de Noël, miel, foie gras, magret de canard, champagne, il y aura pas mal de producteurs présents, et ils pourront également acheter à emporter des plats chauds pour les déguster chez eux.
Alors donc, participe en tant que producteur, je vois Noémie de Grenier de la ferme Gauvry de Rimont, c'est ça ?
Voilà, donc Noémie est une productrice de canards, elle élève ses canards et elle fait donc du canard sous plusieurs formes, le magret, le foie gras, le magret séché, et elle fait également de la viande de bœuf de Bazas.
Oui, c'est son frère qui est spécialisé sur la partie élevage bœuf de Bazas. Alors donc, Noémie Grenier, ferme Gauvry à Rimont, mais il n'y a pas que, parce qu'il y a également Muriel Levrault qui est elle, productrice d'escargots, c'est ça ?
Voilà, donc Muriel est dans le Médoc et elle propose des escargots à la Bordelaise, des escargots à la Bourguignonne. Elle sera là également, comme chaque année. Il y aura également le miel de Lynn Pelé, qui sont des apicultrices, deux sœurs apicultrices qui se trouvent dans le sud Gironde.
Côté la Réole, qui malheureusement a eu un incendie il y a quelques années. Il a fallu qu'ils remontent leur exploitation.
Exactement, leur exploitation a brûlé. Et du coup, ben, on est là aussi pour les accueillir, pour qu'elles puissent continuer à vendre leurs produits.
Alors, je vois que vous avez également un maraîcher du coin, là, à Galgon. Là.
Alors là, voilà, ça, c'est la première fois que ce maraîcher va venir sur la propriété. D'habitude, nous n'avons pas cette producteur-là, donc nous allons faire sa connaissance également dimanche.
Donc, lui, il propose des veloutés de saison et vente de légumes de saison, c'est ça ?
Voilà, donc, plat chaud à emporter, velouté. Et ensuite, pour faire son marché, les légumes et les fruits de saison sur son étalage.
Alors bien sûr, on a du vin de la propriété.
Voilà, donc il y aura le vin de la propriété, donc vin rouge et rosé, ainsi que les petits produits dérivés, confit de vin, confiture de raisin, et puis sel au vin. On aura également un producteur de sauterne, donc un vin de sauterne. On aura également un fleuriste, un producteur de pain et de pâtisserie.
Oui.
Voilà, il y aura un producteur de lamproie également,
ah.
Des lamproies de Cambe.
Ah oui, tout à fait, spécialité de la région. Et alors également du fromage de chèvre, je crois.
Et du fromage de chèvre également de la ferme aux chèvres de la Traîne.
Et alors tout ça va se situer au château de Courtade du Buc. Alors c'est où juste ce château Courtade du Buc là ?
Alors, donc le château Courtade du Buc est situé sur la commune de Camblan-et-Ménac. On est à 10 km de Bordeaux, sur donc les coteaux, donc sur les premières côtes de Bordeaux, au début de l'entre-deux-mers.
Et alors donc, pour ça, vous avez prévu quand même un peu le beau temps. Bon, mais vous avez l'habitude, puisque vous faites ça en général toujours premier dimanche de décembre.
Effectivement, nous faisons ça en intérieur dans notre salle, puisque nous avons également une salle de réception qu'on loue pour des mariages ou des événements professionnels. Donc là, cette année, avec le contexte sanitaire, nous allons recevoir notre clientèle en extérieur. Donc il y aura des barnums, bien évidemment, pour pallier à la pluie, si jamais il devait y avoir de la pluie, puis on a nos chais également. Mais là, effectivement, on recevra le public en extérieur avec protocole sanitaire, du gel hydroalcoolique à disposition, des masques, etc.
Et tout ça, ça commence à quelle heure, juste ?
Alors, ça commence dimanche à partir de 10h jusqu'à 18h toute la journée. Donc, les personnes peuvent venir entre midi et 2 également si elles le souhaitent, ou dès le matin pour retirer leur plat pour déjeuner le midi et jusque milieu d'après-midi. Et ensuite, eh ben, les producteurs, donc, je pense à la tombée de la nuit, replieront leur stand.
Voilà, il faut souhaiter que malgré ces problèmes, je dirais, de crise sanitaire, on puisse quand même continuer à fonctionner comme il faut, quoi. Manger local, puisque c'est quand même la devise depuis 6 mois, on parle de plus en plus de manger local, et là, eh bien, il faut le prouver, quoi.
Voilà, alors c'est vrai que nous, manger local, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, mais effectivement, surtout les citadins, je pense, se sont mis à consommer un peu plus local. Alors nous, c'est vrai qu'ici, on est quand même dans la campagne, les gens ont quand même déjà cette habitude-là d'aller consommer chez les voisins, producteurs. On a déjà, mais ça s'étend effectivement à une nouvelle clientèle.
Et là, l'exploitation, vous avez beaucoup d'hectares là en vigne ?
Alors, c'est une petite exploitation. Nous n'avons plus que 5 hectares de production. Donc 5 hectares de production de vignes rouges. Nous avons également, qui complète l'activité, un gîte pour recevoir des touristes et une salle de location. Donc nous faisons beaucoup de nos tourismes depuis très longtemps également. Nous accueillons les visiteurs sur place pour des visites, bûchers, dégustations. Et nous avons également sur la propriété des lamas.
Ah, des lamas. C'est le côté original, le lama, là.
Oui, c'est le petit côté original. Les gens aiment bien venir les voir. Ça fait l'attraction sur la propriété.
Très bien. Écoutez, je souhaite que tout se passe bien. Vous avez peut-être un numéro de téléphone si on veut réserver ou avoir des informations.
Absolument. Donc, les gens peuvent nous contacter directement sur mon portable au 06 15 40 72 52. Donc, moi, je suis Nathalie, qui n'hésite pas donc à m'appeler pour plus de renseignements ou pour passer leur commande de repas. Et également, il y aura une tombola, donc il y aura un lot à gagner en fin de journée. Une tombola sera, il y aura un tirage au sort et un panier garni sera à gagner.
Très bien. Et alors, vous avez également, je crois, une adresse mail, non ?
Voilà, donc l'adresse mail. Alors, on a un site internet, c'est www.courtade-dubuc.com. Il y a un formulaire de contact, mais sinon directement on peut me joindre sur mon mail, donc c'est nathaliedaron@courtade-dubuc.com, le tiret du 6.
Très bien, Nathalie Daron, ça se tient,
courtade, oui. @courtade-dubuc, c'est le nom donc de la propriété, .com.
Très bien, donc marché à la ferme dimanche 6 décembre chez Nathalie et Hubert Daron au château Courtade-Dubuc à Camblane et Ménac. C'est pas la première année que vous faites ce marché à la ferme.
Non, voilà, nous sommes des habitués, ça doit faire maintenant une quinzaine d'années.
Donc vous êtes vraiment rodés par rapport à ce marché à la ferme. Vous faites d'autres activités au cours de l'année, là ?
Alors, au cours de l'année, ben, nous faisons, comme je vous le disais, de l'onotourisme, donc des visites, des chais avec dégustation.
D'accord.
Nous recevons des Français, des étrangers. On peut recevoir des groupes, des bus, des bus de troisième âge, des bus de touristes. Nous travaillons beaucoup avec l'Office de tourisme de Bordeaux également, qui nous envoie des bus régulièrement. Là, cette année, je vous cache pas qu'on n'en a pas trop vu la couleur.
Et oui, malheureusement.
Mais habituellement, effectivement, nous avons des activités de nos tourismes. Nous faisons également, oui, effectivement, quelque chose que j'avais oublié. Nous faisons également des dégustations de vin dans le noir.
Ah.
Donc ça, c'est sur réservation. C'est une box que l'on peut acheter sur le site du Drive Fermier, sur lequel donc, nous sommes depuis 8 ans. Donc le Drive Fermier 33, ça se trouve également facilement sur Internet. Et on vend une box pour les fêtes de Noël. En l'occurrence, c'est très sympa. C'est une box pour 2 personnes au tarif de 49€. Et les gens viennent sur la propriété passer 2 bonnes heures, faire une dégustation de vin dans le noir et ensuite une visite des chais.
Ah, d'accord. Donc, le travail fermier, on a l'occasion, depuis le départ, d'en parler avec Alain Monger au départ, et puis ça a continué par la suite, d'autant plus que ces travail fermiers ont pris de plus en plus d'importance.
Oui, et notamment depuis le confinement, effectivement. Mmh.
Très bien. Merci Nathalie Daron de nous avoir ouvert les portes de votre château Courdat du Buc à Camblan et Ménac, sachant que Marche à la ferme aura lieu dimanche 6 décembre de 10h à 18h. Merci.
Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.
Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi.
Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant.
Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change à rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller.
Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc.
Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi.
Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver.
Mais pas plus con, mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit.
Si je croise un de vos riens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien.
Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en fait de moi un dégueulasse, qui sont des faits qui me dépassent.
Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue, j'ai pas dit peur que je me perche, mais inutile de me mettre au trou.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
Les sols vivants et l'exercice que l'on a demandé à Marc-André, c'est de nous parler de ces sols vivants, parce qu'on en parle de sols vivants, mais encore faut-il les mettre en place, les mettre en œuvre, les mettre en prospective, et les conditions de réussite de ces sols vivants. Voilà. Et je crois que Marc-André va intervenir sans image.
Oui, vous devrez vous contenter de moi comme image, mais en même temps, non seulement il n'y a pas d'image, mais il n'y a pas de légitimité, parce que qui suis-je pour parler de vigne ou de vignoble? Je ne suis pas un praticien.
Hein. Amateur de vin, peut-être?
Oui, je fais beaucoup pour la filière en ce sens, évidemment. Mais le fait est que je n'ai pas de conseils pratiques à vous donner, peut-être vous serez déçus de ça, mais la chose que je voudrais vous apporter, c'est une vision, finalement, qui là, par contre, est le cœur de ce qui est la compétence que j'essaie de développer dans mes équipes de recherche et dans mon propre cheminement, qui est une vision du sol vivant, et d'un certain nombre de logiques que nous avons perdues parce que nous les avons remplacées par des logiques plus efficaces à court terme, mais pas à long terme. Alors, je voudrais en fait vous montrer que la vigne est intégrée dans un réseau vivant et que ce réseau, nous l'avons rompu. La vigne, ça a été évoqué, notamment, elle grimpe dans les arbres. La vigne, dans son aire d'origine, dans son écologie d'origine, c'est une plante de la forêt riveraine. Elle pousse dans des sols extrêmement humides, extrêmement profonds. D'ailleurs, ça va lui permettre de s'enraciner profondément parce qu'elle sait mener ses racines très très loin, même quand il n'y a pas d'oxygène, dans les sols de son aire d'origine, et elle grimpe dans les arbres. On voit qu'elle est déjà accompagnée. Mais je voudrais, et ce sera mon premier point, insister sur le fait que la compagnie qui est autour de la vigne, les liens qu'elle a aux autres êtres vivants, sont aussi des liens qui se voient moins, que ce soit dans son milieu d'origine ou lorsque nous la cultivons, ce sont des liens microbiens dans les sols. Et ce sera mon premier point. Ce premier point, c'est cette idée que le sol a de tout temps été construit par le vivant. Et même la fertilité du sol est une histoire de vivant. L'azote qui est dans le sol, il ne vient ni de la roche, ni des plantes qui sont là. Les plantes qui sont là, elles l'ont pris dans le sol. Donc d'où ça vient? Ça vient de l'air par le biais de la fixation d'azote. Alors souvent, mes collègues me disent, oui, mais Marc-André, il n'y a pas que la fixation de l'azote par les bactéries qui amènent de l'azote dans le sol, il y a aussi de l'azote qui tombe sous forme de poussière, de nitrate avec la pluie. Et oui, et il vient d'où? Bah, il vient d'un autre sol où il y a eu de la fixation d'azote. Donc, que ce soit par importation ou sur place, l'azote qui est dans le sol, il est issu de la vie du sol. Et puis, pour ce qui est de la fertilité minérale, la dissolution des éléments de la roche-mère qui libère du phosphate, du potassium, c'est aussi un mécanisme microbien. Il se fait dans les sols 10 à 100 fois plus vite qu'il ne se ferait par des mécanismes physico-chimiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des microbes qui vont chercher cet azote, ce phosphore, ce potassium, et qui vont détruire, hydrolyser, dissoudre les particules minérales du sol. Donc, la fertilité, qu'elle soit issue de la roche-mère ou de l'atmosphère, elle est microbienne. Bon. Mais il y a plus. Parce que ça, vous allez me dire, bon, ben, voilà, ça, c'est la fertilité du sol. Ce qui convoie cette fertilité du sol vers la plante, ce sont des microbes. Et contrairement à ce qu'on pense, les plantes, contrairement à ce qu'on enseignait d'ailleurs, et je vois ici que la plupart d'entre vous ont un âge tel que, oh, vous savez, il n'y a pas besoin d'être vieux pour ça, hein, il suffit d'avoir suivi les cours il y a encore 5 ans, on parle de poils absorbants, on parle de racines, mais tout ça c'est un non-sens, ça n'a pas de sens biologique. La plupart des plantes sont incapables d'utiliser leurs poils absorbants pour tirer n'importe quoi du sol. Et d'ailleurs, quand elles le feraient, comme les ressources en question vont très vite s'épuiser autour de la racine, ça n'aurait pas de sens. Le phosphate circule très peu, par exemple. Quand vous avez pompé le phosphate de la rhizosphère, ou le fer ferrique circule très peu. Quand vous l'avez pompé dans la rhizosphère, c'est fini, il n'y en a plus. Ça ne peut pas marcher, parce que ces molécules-là sont très peu mobiles. Il faut aller les traquer là où elles sont. Et en fait, l'acheminement, il se fait par des microbes. C'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Les champignons filamenteux qui forment les mycorhizes sont installés en partie dans la racine, qui est en fait une mycorhize parce qu'elle contient du champignon. Et pour partie, ils vont nourrir et forcer des photosynthétas que leur donne la plante, ils vont explorer le sol, ils vont aller très loin, ils vont, alors jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, mais opérationnellement, quelques millimètres, c'est déjà énorme à l'échelle. Ils vont aller chercher les molécules peu mobiles, ils vont les rapatrier vers la plante, et ils vont les céder en échange de sucre à la plante. Donc c'est eux les convoyeurs, en quelque sorte. Et il faut bien comprendre que le sol, il est dilué, et un certain nombre de ressources n'y sont pas mobiles. Donc, sans mycorhize, ça ne marche pas. Alors, si ça marche, mais alors il faut gaver le système. Ce sont les engrais minéraux que l'on applique. Et là, en gavant le système, bah, il finit par y avoir assez de choses dans la rhizosphère. Et d'ailleurs, quand on gave le système, et je voudrais en terminer là, la plante finit par trouver elle-même dans sa rhizosphère ce dont elle a besoin, pour un coût beaucoup moindre que de nourrir un champignon. Et vous cassez l'alliance, c'est-à-dire que les plantes ne se mycorhizent plus, ou se mycorhizent moins. Et si elles le font, c'est un pur coût pour elles qui n'est pas compensé par une meilleure nutrition que si elles n'étaient pas mycorhizées. Donc, quand on ajoute des engrais, effectivement, c'est exactement comme quand on me met sous perfusion avec une poche de glucose et quelques acides aminés, ça marche, à court terme. Sauf qu'à long terme, on a aussi perdu ces champignons pour qui la racine est un lieu de vie et de ressources, et on a aussi perdu un autre trait qu'ils ont, c'est que pour eux, dans leur évolution, chaque fois qu'ils ont pu acquérir des traits qui défendent la racine, ça revient à défendre leur garde-manger. Et ils opèrent par leur présence physique, mais aussi par les modifications du fonctionnement de la racine, voire même à distance des parties aériennes, ils opèrent des modifications des réponses immunitaires de la plante. Donc ils sont physiquement présents, ils vont lutter contre les intrus pas simplement en mangeant ce qu'il y a à manger, voire dans certains cas en émettant des substances antibiotiques, et puis ils modifient la plante et ils la rendent plus capable de réagir, non pas par pur altruisme, mais simplement parce que chaque fois qu'ils protègent la racine, ils assurent une plus grande sécurité à leurs ressources. C'est une logique évolutive profonde qui fait que l'immunité de la plante est construite sur le champignon. Et c'est là qu'on sent que si on met des engrais, évidemment, à court terme, ça marche très bien, ça marche peut-être mieux qu'avec des mycorhizes, parce qu'il y a à la fois plus d'azote, plus de phosphate, plus de potassium, pour un coût moindre pour la plante. Mais à long terme, vous perdez l'effet phytosanitaire. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va traiter. Et on rentre dans une double spirale de dépendance. Une spirale de dépendance aux pesticides, parce qu'on a des organismes qui se défendent moins, des pesticides qui tapent un petit peu sur la tête des champignons au passage, qui fait que demain, on va avoir encore plus besoin de pesticides, mais que aussi, demain, on pourra encore moins compter sur les champignons pour la nutrition, et donc, on va mettre des engrais. Et quand on va mettre des engrais, il y aura encore moins de lien aux champignons, donc les champignons seront moins nourris. Donc, vous avez ces deux boucles insidieuses qui se mettent en place. Je mets des engrais, la plante s'appuie moins sur les champignons, il y a moins de champignons, donc, je vais avoir plus besoin d'engrais la fois suivante, mais aussi, je vais avoir moins d'effets phytosanitaires, et donc, je vais avoir besoin de pesticides qui, eux-mêmes, contribuent à réduire la présence mycorhizienne. Cette double boucle vicieuse, elle a une vertu, c'est qu'elle a lissé quantitativement l'approvisionnement nutritif de l'humanité. Il n'y a plus de famine en Europe depuis la fin du 19e siècle et on a tendance à oublier parce que nous sommes tous nés avec une petite cuillère dans la bouche, en or. Nous sommes tous nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui fait que nous avons oublié à quel point ce système-là a, à court terme, assuré quelque chose qui a permis en fait le décollage démographique de l'humanité. Alors on pourrait discuter de savoir si c'est une très bonne idée ce décollage démographique, mais enfin le fait est là, nous n'avons plus de famine. Et c'est vraiment important de s'en souvenir parce que ça veut dire qu'à un moment, certaines personnes avec ces pratiques historiques ont résolu des problèmes et puis ils en ont créé d'autres. Et nous là, on arrive, la fleur au fusil, on dit tiens, on va résoudre ces problèmes. Croyez-moi, nous sommes juste en train de préparer ceux de la génération suivante. Et il faut être plein d'humilité. L'autre leçon de cette histoire-là, c'est que non seulement ceux qui ont créé cette agriculture ne sont pas des terroristes, ceux qui veulent persister en sont, mais ceux qui l'ont créé ne sont pas des terroristes. Et la deuxième chose, c'est que nous serons des terroristes si nous ne nous mettons pas dans l'état d'esprit d'évoluer perpétuellement. Ce dont je reconnais que pour l'agriculture, en général, c'est une charge lourde, car elle a déjà beaucoup de mal à se porter elle-même économiquement et humainement. L'agriculture s'ouvre en France, hein, peut-être moins la viticulture, mais c'est un poids double. L'agriculture, elle doit évoluer. Elle doit être en perpétuelle évolution. De toute façon, ni le climat, ni l'évolution des parasites ne lui laissent de choix de ce point de vue. Alors, je termine cette parenthèse un peu philosophique sur le fait qu'il faudra de toute façon continuer à se poser des questions. Et j'ai terminé mon premier point. Les microbes du sol font la vigne. Je voudrais faire un bref autre point sur le fait que les microbes font aussi la santé des parties aériennes. Il faut que vous vous représentiez la feuille comme quelque chose qui a un pelage microbien, exactement d'ailleurs comme le microbiote de votre peau. Par parenthèse, c'est exactement la même chose. Alors c'est exactement la même chose, et Dylan va peut-être pouvoir nous montrer l'image d'un livre qui raconte que c'est la même chose pour les plantes et les animaux. Donc ça c'est une page publicitaire qui n'a pas une grande importance. Mais le fait est que quand vous avez une surface de feuille, elle est habitée. Bon, alors là, on parle de ça, effectivement. Ah, en plus. En tout cas, c'était moins pour vous passer cette image que pour vous dire qu'il y a cette présence surfacique de microbes, et puis il y a une présence aussi de microbes qui rentrent à la faveur des stomates. Il faut que vous compreniez que la structure de la plante est tout à fait différente de la nôtre. Les cellules ont une paroi, cette paroi les protège, donc il peut y avoir des délaminations de la paroi qui font des micro-trous qui permettent le passage de l'air, et il y a des trous partout dans la plante qui qui sont ce système vasculaire complètement oublié, le système par lequel diffusent les gaz dans la plante. Une plante, c'est plein de trous, des micro-trous entre les cellules, qu'on appelle des méas techniquement, mais qui sont reliés entre eux, un peu comme une microporosité, tiens, de sol, on va en venir à ce point tout de suite après. Et ce réseau de trous assure la circulation des gaz, jusque même dans les racines. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, ces trous-là, évidemment, comme ils sont en plus débouchants sur l'extérieur par les lenticelles aussi sur la tige, mais surtout par les stomates dans les feuilles, eh bien, il y a plein de microbes qui rentrent là-dedans. Bilan, quand vous tenez une feuille de vigne en main, vous avez une bonne vingtaine d'espèces de champignons minimum qui vivent là-dedans, même si elle est saine, hein, qui vivent là, qui bouffent deux, trois trucs, qui attaquent un petit peu la paroi, mais qui ne sont pas des pathogènes. Vous avez 100 millions de bactéries par gramme de feuille. Et tous ces organismes-là, pour eux, la feuille, ben, c'est leur milieu de vie. C'est à la fois leur milieu de vie physique, mais leurs ressources. Donc, même logique évolutive, tout ce qui leur permet d'améliorer la santé de cette structure est bon pour eux et leur assure la capacité de faire plus de descendants. C'est sélectionner d'aider la feuille. Et donc, quand on bazarde un pesticide sur une feuille, bah, évidemment, on résout le problème qu'on a à résoudre. Et je ne dis pas que des fois, on ne soit pas amené à le faire nécessairement. Hein. Je ne suis pas en train de dire « arrose sur les pesticides ». Peut-être qu'on peut utiliser dans certaines circonstances. Mais c'est comme les antibiotiques. Plus vous les utilisez, plus vous tapez sur la tête du méchant au tenté, et le lendemain, eh bien, vous vous retrouvez privé des défenses ordinaires et donc plus vulnérable. Donc, il y a un microbiote dans la feuille aussi. Il n'y a pas qu'un microbiote, d'ailleurs, il y a aussi des petits acariens. Je ne sais pas si vous êtes tous des artistes du typhlodrome. Mais un typhlodrome par feuille vous réduit notoirement la probabilité d'installation de tout champignon pathogène. Quand tous ces gens-là se sont pris dans la tête, je parle des champignons surtout superficiels et des bactéries superficielles ou des acariens, quand ils se sont pris sur la tête de la bouillie bordelaise, ben, ils ne sont plus là. Ça, c'est sûr. Donc, tant qu'il y a de la bouillie bordelaise, ça va parce qu'elle fait le travail. Quand elle est lessivée par la pluie, c'est une feuille nue, privée de défense, qui est offerte aux pathogènes. Bien, donc vous voyez que cette histoire de microbiote, c'est dans toute la plante. Absolument. Et par rapport aux animaux qui ont juste des microbes sur la peau ou dans le tube digestif, chez les plantes, c'est partout. C'est contexturé. C'est-à-dire que les microbes sont mélangés aux cellules. Une cellule, 10 microbes. Une cellule, 15 microbes. Une cellule, 5 microbes. C'est comme ça une plante. Et c'est comme ça fonctionnellement aussi, dans sa capacité à se nourrir et à se défendre. J'ai parlé du microbiote, pardon, des microbes du sol, et notamment des mycorhiziens. J'ai parlé des microbes de la feuille et de leur contribution, finalement, un peu oubliée à la feuille. Et en filigrane, j'ai toujours cette idée que l'efficacité à court terme nous prive de ce microbiote à long terme et de ses fonctions à long terme nutritives et protectrices. Et j'en viens à mon dernier point. Il n'y a pas que des petites choses autour de la vigne, il y en a de plus grandes. On évoquait les arbres qui sont dans la logique finalement historique de la vigne, des supports. Hein. La vigne est quand même quelque chose qui parasite des arbres pour se dresser jusque vers la lumière et offrir ses fruits aux oiseaux par-dessus la canopée. La vigne, elle est entourée de plantes. Et nous avons tous une vision de la vie de la plante comme empreinte de compétition. Et nul ne songe à nier que quand des plantes coexistent, leurs feuilles sont en compétition pour la lumière et leurs racines sont en compétition pour les ressources du sol, c'est-à-dire pour les champignons. Et de ce point de vue-là, il y aura toujours de la compétition si on rajoute d'autres plantes. Mais il y a aussi des effets de synergie qu'on a complètement oublié de développer. Et ces effets de synergie, alors là, je ne vais pas détailler ça, j'en parle un peu dans le bouquin, sont d'autant plus importants que le milieu est pauvre. Un grand biologiste qui avait pensé la coopération et qui est connu plutôt comme terroriste, ou en tout cas comme anarchiste, Kropotkin, mais qui à la base était un biologiste et qui avait étudié l'entraide, faisait observer que le partage, la mutualisation des ressources, le « est à moi, ceci est à toi », était moins fréquent parmi les pauvres que parmi les riches. Plus un milieu est riche, plus les ressources sont abondantes, plus la stratégie la plus stable, c'est de se les accaparer. Moins elles sont riches, moins en fait on arrive vraiment à rentrer en compétition parce qu'on est le produit de tas de stress et de tas de limitations, la compétition est moins opérante et l'entraide est avantagée. Alors ça c'est important parce que ça veut dire que plus vous faites un sol riche, plus vous vous placez dans la situation où effectivement les autres plantes seront des compétiteurs. Si vous passez dans des logiques de fertilité légèrement moindres, À ce moment-là, vous pouvez espérer qu'il y a plus de synergie possible. Alors, vous souriez sans doute, parce que vous dites quand même, une vigne enherbée, moi je sais que ça me bouffe de l'eau. Oui, parce que c'est ça les mauvaises herbes, en fait, dans la vigne, c'est la question de la vigne enherbée. Et c'est vrai, c'est indéniable qu'il y a une compétition pour l'eau. Je vous ferai observer quand même une chose par rapport à cette compétition sur l'eau, c'est qu'elle est d'autant plus prononcée que la vigne n'a pas connu dès son plus jeune âge la présence de l'enherbement. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, elle n'a pas à disposer ses racines d'une façon qui limite ou évite la compétition. Mais on n'évitera pas que, même si, dès les premiers pas, la vigne a eu un entrerang, au moins, enherbé, on ait un problème de compétition, c'est évident. Par contre, on a des effets de synergie. Alors, je n'ai pas parlé d'aspects techniques comme les aspects de portance des sols. Bon, surtout que je ne suis pas sûr qu'ici ce soit un vrai problème. Enfin, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien. Donc, je ne vais pas en parler. Mais je voudrais surtout vous parler, moi, de porosité du sol. Parce que une des raisons de labourer et de retourner le sol, c'est de faire des trous pour que l'eau rentre. Oui ? Personne ne s'oppose ? Sauf qu'on fait des gros trous. Et ce n'est pas ces trous-là qui sont intéressants. La réserve utile, elle est dans la mésoporosité. Elle est dans les pores assez petits pour retenir l'eau par capillarité, mais quand même assez grand pour que la rétention capillaire ne soit pas assez forte pour que la plante n'arrive pas à prendre l'eau. Donc ce qui compte, c'est d'avoir des trous pas trop petits parce qu'ils retiennent trop l'eau, pas trop gros parce que dans ces cas-là, ils ne retiennent pas l'eau du tout. Elle s'en va par gravité. Et qu'est-ce qui fait la mésoporosité d'un sol ? Ben, ce n'est pas, pas le labour. C'est le déplacement des microbes. C'est la croissance d'un champignon qui meurt et qui laisse un trou. C'est la poussée d'une racine qui perturbe quelques petits trucs autour d'elle par sa croissance et qui va ménager des pores de la bonne taille. Et ça explique qu'une vigne enherbée est une vigne qui va avoir la capacité d'avoir une plus grande réserve en eau, un sol enherbé en général, j'ai pas de chiffres sur la vigne, moi j'ai que des données plus générales, j'en suis bien désolé, mais on sait très bien que la porosité qui résulte de la présence d'un couvert végétal, c'est une porosité qui est plus à même de retenir l'eau. C'est-à-dire que l'eau rentre plus facilement, et surtout elle est mieux retenue, parce qu'il y a plus la catégorie de trous qui retient l'eau, et une eau disponible pour la plante. Ce qui veut dire que bien sûr il y aura une compétition pour l'eau, mais elle est moins forte. Enfin, l'effet sera moins fort, si vous voulez, que simplement le fait de rajouter les plantes sur un sol labouré. Il sera mitigé. Alors, il y a aussi derrière tout ça quelque chose qui est un peu tabou, c'est l'irrigation de la vigne. Il faut quand même se dire que dans certaines régions, ce ne serait pas aberrant d'aider la vigne avec de l'eau, si tant est que les ressources en eau sont là, et que ça ne se fait pas au détriment de la qualité. Mais ça, c'est un peu tabou, cette histoire d'irrigation du vignoble, en tout cas chez nous, pas chez nos concurrents économiques. Et pour le coup, c'est aussi un outil duquel on peut vouloir utiliser complémentairement pour avoir ces plantes. Alors oui, parce que ces plantes, là on est en train d'ergoter en disant « Bon, elles font de la compétition pour l'eau, mais quand même, c'est pas si grave. » Alors pourquoi on les voudrait quand même ? Ben, on les voudrait pour une bonne raison. C'est que ces plantes, c'est l'entrée du carbone dans le sol, c'est une des entrées du carbone dans le sol. Il faut quand même voir que 50% de la photosynthèse passe sous terre et finit par faire des racines. Ces racines, elles font des exudats. Elle peut faire jusqu'à 20% de la photosynthèse, 20-30%, et puis ensuite elle meurt, et là, bah, ça fait de la racine morte. C'est de l'injection de matière organique, c'est de l'injection de matière qui va vers les champignons mycorhiziens, c'est de l'injection de matière morte ou exudée qui va vers des microbes du sol. C'est ça qui va soutenir la vie du sol. Et en particulier, quand votre vigne n'aura pas de feuilles, vous aurez vos maigres herbelettes là, qui vont traîner dans l'interrang. Ben, c'est elles qui vont nourrir les microbes du sol et les champignons mycorhiziens. Alors que si votre vigne est nue, bah, en dehors de quelques spores de champignons, il n'y aura rien pour le moment où l'activité des racines de la vigne reprendra. En d'autres termes, vous avez ici quelque chose qui est un relais pour nourrir les microbes du sol quand la vigne n'est pas forcément très opérationnelle, et notamment pour nourrir les champignons mycorhiziens. Et moi, je connais quelques travaux, ceux-là, sur la vigne, qui montrent, alors sur des modèles simples et en pot, donc on est encore loin de les maîtriser au champ, bien sûr, mais qui montrent que de l'azote peut passer des plantes de l'interrang vers la vigne. Et là, on a très envie de mettre dans l'interrang des plantes fixatrices d'azote, parce qu'on se dit que finalement, ben, cet azote, il va passer. Et comment il passe ? On s'aperçoit qu'il ne passe pas si on coupe les filaments des champignons mycorhiziens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mêmes champignons mycorhiziens colonisent d'un côté les racines de la vigne et de l'autre côté ces fameuses mauvaises herbes. Ça montre bien au passage que ce que nourrissent ces mauvaises herbes, c'est bien les champignons qui peuvent ensuite se connecter à la vigne quand elle aura des besoins. et qui préétablissent donc le réseau mycorhizien. Et c'est ce réseau mycorhizien aussi qui est une voie d'échange par lequel il peut y avoir des échanges, alors d'ailleurs dans les deux sens, entre la vigne et les plantes voisines. Et finalement, on se dit, ah, alors si on arrive à gérer notre couvert de telle sorte qu'effectivement, il opère des transferts dans la bonne direction, ben, on aura gagné. On aura nos plantes qui textureront le sol par rapport à la réserve en eau, qui feront la portance, qui nourriront les champignons mycorhiziens et qui peut-être même pourraient nourrir la vigne. En tout cas, nous avons pensé en termes de compétition et donc nous sommes arrivés à l'élimination de ces mauvaises herbes, mais il y a quand même des complémentarités à retrouver et je suis au regret de vous dire que par contre, quant aux gestes techniques qui accompagneraient ces retrouvailles, on est encore en train de les approximer. Donc je suis vraiment désolé de ne pas vous donner des consignes plus précises, mais ce n'est pas mon métier et ce ne serait vraiment pas logique que je le fasse. En revanche, ce que je sais comme biologiste, c'est qu'il y a une porte ouverte à la coopération entre les végétaux. C'est le programme de l'agroforesterie, c'est le programme des cultures mixtes, c'est le programme des vignes enherbées. Et le concept de mauvaise herbe est à court terme quelque chose d'utile, mais à long terme, il abîme le fait de les éliminer et de les voir comme des mauvaises choses, et donc de les retrancher. Ça va finalement abîmer le sol et détruire des synergies possibles, notamment au niveau de l'entretien du réseau de champignons mycorhiziens. Alors j'en ai fini de cet exposé où j'ai essayé de vous sensibiliser au fait que la logique historique de la plante, c'est de s'appuyer sur des microbes du sol, des microbes qui la colonisent en l'air, et aussi finalement, quelque part, sur ses voisines, parce qu'il y a aussi des complémentarités qui peuvent s'établir. Et retrouver ça, c'est urgent. Parce que on disait tout à l'heure que ma seule contribution au monde du vin était d'en boire. Nous sommes nombreux à boire du vin dans ce pays. Et moi, ce que je vois, et ce que je vois notamment dans les jeunes générations que je forme, c'est monter une forte hostilité, pour de bonnes et de mauvaises raisons, d'ailleurs, c'est plutôt philosophique que biologique et pensée, une forte hostilité à une agriculture basée sur l'utilisation d'intrants. Je pense que c'est en partie une erreur, parce que quand on exporte quelque chose d'une parcelle, à un moment, il faut ramener d'autres choses. Quoi, comment et quand, plutôt organique que minéral, par exemple, bon, c'est une autre question. Donc, je ne suis pas sûr que cette génération ait tout à fait raison dans sa perception des intrants agricoles, mais elle n'en veut plus. Et quand je lis un ouvrage comme celui de Serralini sur les résidus de pesticides dans le vin, je m'exclame sur l'absence de méthode à chaque page, mais je pense qu'au fond, il a raison. Aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent autre chose. Et quelque part, c'est aussi cette dictature qu'il va falloir vivre. Je parle de dictature parce que cette attitude n'est pas toujours justifiée par, justement, des choses raisonnables et scientifiques. Et il va falloir aussi gérer ça. Plus vite on le gérera, plus vite on prendra les parts de marché qui correspondent. Il y a aussi cette idée que partir trop tard, ça revient à ne pas partir. Essayez d'acheter une voiture électrique française, vous verrez. Oui, parce que dans l'environnement de la vigne, il y a aussi le consommateur. Et il faut l'écouter. Il évolue aussi. Et dans les choses qui nous forcent à évoluer, il y a aussi les consommateurs. Voilà, je ne sais pas si c'était ce que je devais dire, mais c'est dit.
Moi ça m'agace, agissons pour être efficace. Jusqu'ici, faut bien l'avouer, beaucoup ont tenté d'enfoncer les préjugés les plus tenaces. Je compte sur vous pour que ça le fasse.
Partout ensemble, unis, c'est là notre défi. La jeunesse grande, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras. Quel drôle de guerre ça nous.
Que tu te poses des questions, que ça te mette en ébullition. Mettez-vous à faire les mômes,
incandescement de polychrome, du noir, du rouge avec du blanc, en harmonie pour très longtemps.
Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse grande, on est citoyens du monde, portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre, ça nous fera. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse grande, on est citoyens du monde, portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre, ça nous.
Ta voix va fracasser le verre, laisse la folie t'emparer. Ta vie va se coloriser, mais garde à vue tes utopies. Dans le noir et blanc de la vie, à toi de prendre le relais. À toi jeunesse du monde entier.
La jeunesse en deux.
L'indignation que nous ressentons tous, j'en suis sûr qu'en nous voyant sur les trottoirs, dans les caniveaux, je suis sûr que vous en avez peut-être croisé quelques-uns sur la plage, à côté de votre serviette, il y a peu des masques jetés à même le sol. Alors juste pour info, un masque chirurgical, hein, qu'on voit beaucoup évidemment en ce moment, c'est 450 ans pour se désagréger, parce qu'il y a notamment des résidus de pétrole. Alors je vous présente ce matin Géochanvre, c'est une start-up, elle est basée à Lésine, c'est dans Lyon. C'est l'entreprise qui a créé le premier masque français écologique, 100% végétal. Ce masque-là, je vais vous expliquer, quand vous avez fini de l'utiliser, bah vous retirez l'élastique et puis vous le laissez par exemple se décomposer au soleil dans un pot de fleurs ou alors vous le mettez au compost. Et ça marche. C'est quoi le secret de ce masque? Alors le secret, c'est le chanvre. C'est de cela qu'il est composé. Chanvre côté extérieur, voile de protection doux à l'intérieur. Alors, pour vous imaginer, ils ont la forme de masque FFP2, donc vous savez, bec de canard, ouais, pour pas être collé à la bouche. C'est en plus un confort supplémentaire. En tout cas, c'est ce que dit Géochanvre. Alors, la question principale, est-ce que c'est un gadget écolo ou est-ce que ça offre une bonne protection contre le coronavirus quand même? Et bien, ce masque Géochanvre, il a été validé par la Direction Générale des armements, performance de filtration 89%, faut dire c'est un peu moins que les autres types de masques que l'on connaît. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors pour les particuliers, c'est sur le site internet de Géochanvre. Le prix c'est 80-85 centimes l'unité en moyenne et Géochanvre espère bientôt les vendre en grande surface, mais pour l'instant c'est surtout aux collectivités et aux entreprises locales qui en ont tout de même acheté près d'1,5 million depuis le déconfinement. Et voilà, la France se bouge contre les déchets et contre ces masques qu'on retrouve dans les rues et sur le trottoir. Géochanvre, donc, dans Lyon.
Restaurant de Bourgogne, les masques des salariés ne sont ni en plastique, ni en tissu, mais en fibre de chanvre, naturelle et biodégradable. Depuis la réouverture de l'établissement début juin, tous les salariés l'ont adopté.
Il colle moins au visage par rapport à un masque en tissu ou un masque en papier. Et pour nous, c'est plus facile à respirer dans une ambiance un peu où il y a beaucoup de chaleur. C'est vraiment pratique.
Un masque écolo produit à quelques kilomètres de là, dans cette entreprise spécialisée en temps normal dans la confection de toiles, utilisée comme paillage par les maraîchers et les jardiniers. La matière première, la fibre de chanvre, s'est étonnamment révélée très adaptée à la lutte contre la propagation du virus.
Les caractéristiques du chanvre font qu'en fait, il y a une filtration naturelle. Donc, nous venons de passer catégorie 1 avec 98% de filtration, ce qui est un très bon résultat.
Autre avantage, le chanvre est produit localement et n'a besoin d'aucun pesticide pour pousser. Une fois travaillée, la matière passe sous ces jets d'eau pour être compactée avant d'être séchée et enroulée. Dernière étape, cette machine de découpe laser.
On vient découper les formes pour faire la base du masque.
Les masques prédécoupés sont ensuite expédiés dans cet établissement du département qui fait travailler des personnes handicapées. Ce sont elles qui font le montage.
Donc dans un premier temps, on fait le pliage, donc on préplie les masques. Ensuite, on a une étape où on enfile donc l'élastique. Et donc la dernière étape, en fait, c'est de coller les mousses. C'est pour éviter que le chanvre touche directement la peau.
Les employés assemblent en moyenne 1000 masques chaque jour. Un succès made in France qui prend progressivement de l'ampleur.
Depuis le début du Covid, on a vendu 1 500 000 masques. Ils sont vendus 80% en France. Le restant des pays utilisateurs de masques sont la Belgique, la Suisse et l'Italie.
Le ministère de l'Intérieur a même passé commande. Pour les particuliers, il faut pour le moment acheter les masques via Internet. Chaque unité est vendue 95 centimes.
On peut dire que c'est des masques barrières de protection qui sont destinés à toutes les personnes qui ne sont pas en contact avec des malades. Ce sont tous ceux qui sont amenés à se croiser dans la rue, à se croiser dans des camions de transport, à se croiser dans des communautés de travail un peu plus fermées. Il y a pas mal de demandes sur la région, donc nous, on essaye de réserver aux institutions publiques nos premières commandes, et Air Liquide, tout ce qui fournissent justement les respirateurs, etc., pour nous, sont prioritaires. Pareil que les services des éboueurs, les EDF ou autres qui sont là aussi pour faire marcher tout le système des hôpitaux. Voilà, ça, c'est nos publics cibles, quoi. Y compris les paysagistes qui ont besoin de dire, quand ils voient le client, ils ont un masque, et que, quand ils sont tout seuls, au coin du jardin.
Et voici Côté Jardin avec Patrick. Aujourd'hui, je vais vous parler du camélia d'automne dont les fleurs dégagent un parfum de thé au jasmin. Le camélia, ça sent quoi? Vous êtes-vous demandé pourquoi Marguerite de Gautier, la dame au camélia d'Alexandre Dumas, ne portait à son corsage que des fleurs de camélia? C'est qu'elle ne supportait pas le fin des fleurs et que les camélias, ceux du moins qui au XIXe siècle avaient l'heure de plaire, étaient de plus double et inodore. Le beau monde ne connaissait pas le camélia sacconca, ni l'odeur délicate de ses fleurs. Mais quand bien même, on n'aurait jamais risqué de porter une de ces fleurs trop petite. Et puis simple ou bien semi-double, des fleurs trop éphémères, ne tenant que 2 à 3 jours. Enfin, on n'en trouvait pas, alors en France, on commença à l'apprécier il y a moins de 30 ans. Ce camélia qui pousse à l'état sauvage sur les îles tempérées de Shikoku ou de Shikoku au sud du Japon est pourtant introduite en Europe quasi en même temps que les camélias japonica. Il débarque en Italie en 1760. Il arrive sur les côtes anglaises en 1792. Mais en France, il faut attendre les années 1830 et une exposition à Angers en 1838 pour le faire un peu mieux remarquer. Mais ce n'est alors qu'une affaire de botaniste, de cuisinier ou de coiffeur. Oui, ces graines, ou plus exactement l'huile qu'on en tirait au Japon, étaient appréciées pour la cuisine, les cheveux et la peinture. Certains, enfin, en Chine, rapportent que ces fleurs odorantes auraient servi à parfumer le thé et assurent même que le mot « ça sent quoi » serait une variation phonétique du mot chinois signifiant « fleur de thé ». Reste qu'au jardin, ce camélia ça sent quoi, qui n'avait pas les fleurs pleines des camélias japonica, mit du temps à s'imposer. Il fallut qu'on en vienne à aimer les fleurs légères, plus naturelles, celles de l'automne aussi. Le camélia sasuankwa fleurit de septembre à décembre et peut se prolonger jusqu'à maintenant. Enfin, Voilà qui est une des hybridations se multiplient. Les fleurs deviennent de plus en plus sophistiquées et de nouvelles obtentions, celles notamment issues du croisement avec le Camellia olifera, à fleur d'olivier, donnent des sujets à la fois odorants et résistants au froid à moins 25 degrés. À l'heure où on parle, on est sur des moins 9, moins 10 degrés, voire moins 15, c'est toujours appréciable. Le Camellia sasanka n'a pas dit son dernier mot. Donc c'est quoi cet arbre? C'est un petit arbuste persistant de 2,50 m à 4 m de haut, maximum, pour 3 m d'étalement, port buissonnant, silhouette irrégulière aux branches souples. Sa floraison blanche, rose ou rouge, donc de septembre jusqu'à février. Sol, il faut une bonne terre, non calcaire, et oui, comme toutes les plantes acidophiles qui aiment les sols, qui n'aiment pas les sols calcaires, calcifuges, riches en humus et bien drainés, frais et humides. Son exposition, eh bien, il faut le mettre plutôt soit au soleil ou à mi-ombre. S'il y a trop d'ombre, eh bien, ça peut à ce moment-là ne pas trop fleurir. On peut le cultiver en bac, il est souhaitable dans les régions les plus froides, où il peut être tenté d'être rentré dans les sous-vérandas le temps de la floraison. Voilà, c'était le Camellia, ça sent quoi? C'était Côté Jardin avec Patrick. Voici l'émission Parlons Terroir s'achève. Nous avons entendu Christine Ségrestan de Beaupuis, des vergers de Pireton, nous présenter la cagette de Beaupuis ainsi que le marché qui a lieu tout le premier vendredi de chaque mois à Beaupuis. Nathalie Daron de Camblan-et-Ménac du château Courdatte-Dubuc nous présente le marché à la ferme qui se produira le dimanche 6 décembre. Et une conférence également au château Guiraud avec Marc-André Sellot, professeur de l'Institut national des soins naturels, sur les sols vivants en viticulture. Et puis également masque en chambre biodégradable fait par Géochambre. Et enfin, côté jardin, l'histoire du Camellia. Voici l'émission Parlons Terroir s'achève. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.